budget et surtout toujours délicieux à souhait.
Après tout, ça reste un Rina.
Nathalie et Jean se feront un plaisir de vous préparer de savoureuses boissons et cocktails. D'ailleurs, mentionnez CJMD sur place et on vous offre un verre gratuit à notre santé. Yaman, mais c'est seulement à un seul endroit. Au Rina, Saint-Romuald, 950 La Concorde.
Du 13 au 22 septembre, assistez au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Un festival de surprises, de découvertes, d'émotions, de plaisirs, de projections, de jeux, de sourires, de stars, de premières, de vues, de rencontres, d'histoires, de parties, de couleurs, de beaux mondes, de fun noir, de grosses larmes, de cinéma. Présenté par Québecor, alimenté par Resto Plaisir en collaboration avec le Concorde.
Tu veux aller à Nashville, mais t'as pas le temps. Samedi le 22 septembre, le Nashville Trio va te faire vivre Nashville au bar Le Cluster de Lévis pour 15$.
Tu vas entendre Alan Jackson, Johnny Cash, Buck Owens, Dwight Yoakam, Johnny Orton et plusieurs autres.
La gang à Buddy Sam Walker ont fait salle comble au vieux bureau de poste en mai dernier. Cette fois-ci, l'action se passe au Cluster. Pour info, 418-805-6042 ou facebook.com/BuddySamWalker.
Le vote d'un chef d'orchestre ou d'une webmestre ou encore celui d'un rembourreur. Aucune différence. Tous les votes sont importants. Le 1er octobre, à vous de voter. Un message d'Élection Québec. Le vote d'un pâtissier ou d'une architecte ou encore celui d'une marathonienne. Aucune différence. Tous les votes sont importants. Le 1er octobre, à vous de voter. Un message d'Élection Québec.
Tu veux aller à Nashville, mais t'as pas le temps. Samedi le 22 septembre, le Nashville Trio va te faire vivre Nashville au bar Le Cluster de Lévis pour 15$.
Tu vas entendre Alan Jackson, Johnny Cash, Buck Owens, Dwight Yoakam, Johnny Orton et plusieurs autres.
La gang à Buddy Sam Walker ont fait salle comble au vieux bureau de poste en mai dernier. Cette fois-ci, l'action se passe au Cluster. Pour info, 418-805-6042 ou facebook.com/BuddySamWalker.
CJMD 96.9 FM, c'est ta musique.
L'été est arrivé, ça les brille. On profite du beau temps chaque fois on sent.
L'alternative musicale.
Jeudi 13 septembre au CJMD 96.9, Stéphane Tremblay qui s'installe aux commandes de l'émission L'envers de la médaille. Cette semaine, on va parler d'un autre sujet très tabou, mais vous allez voir qui est quand même très poignant également aussi. On va parler de suicide et des signes avant-coureurs du suicide. Et pour nous en parler, tout d'abord, nous avons Martine Brault qui est avec nous. Martine, bienvenue à l'émission.
Bien, merci.
Martine, il y a à peine plus d'un an, tu perdais ton fils Patrick qui s'enlevait volontairement la vie alors qu'il était un jeune homme.
Oui, Patrick avait seulement 20 ans quand il a décidé de mettre fin à ses jours. Mais le problème, je pense, dans sa tête, ça faisait vraiment longtemps que ça durait parce qu'il s'était confié à quelques copines. Ça faisait au moins 5 ans là, qu'il y avait vraiment des idées suicidaires. Puis c'était plus une question de quand je vais me suicider. Le comment, il savait. Le où, c'était pas mal clair. Il avait choisi deux options. Finalement, il a pris une des deux options. Là. Ouais.
Et comment qu'on se sent un an plus tard?
Je te dirais, ce qui m'a énormément aidé, c'est de lire beaucoup puis de vraiment comprendre que mon gars, finalement, avait une maladie, la dépression. C'était pas de ma faute, parce que c'est sûr que comme parent, quand tu perds ton enfant, ben c'est sûr que tu te mets le blâme sur toi. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Mais quand on comprend vraiment que c'est une maladie, si mon gars aurait eu un cancer du cerveau, ben je me serais pas blâmée. Donc là, j'ai compris ça. Mais ce que ça m'a... Moi, je suis quelqu'un qui doit comprendre puis aller au fond des choses. Donc, j'ai lu beaucoup. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui se suicidaient au Québec. On est au-dessus de 1000 suicides par année, donc 3 personnes par jour. Mais ce que j'ai appris, c'est que ça fait pas 5 ans, là, ça fait 40 ans que ça dure. Et puis, c'est sûr que là, j'ai trouvé ça un petit peu inacceptable. Puis, en continuant de lire, je me suis dit que non, ça avait pas de bon sens. Fallait dénoncer. Puis, je me sentais prête à le faire. Puis, plus j'en parle, plus ça devient facile. Puis, plus ça m'aide un petit peu à traverser mon deuil, de me dire, j'aide les autres, tu sais. Puis, quand on parle de 1000 suicides par année, tu sais, c'est l'équivalent d'avoir un avion d'H8 avec 50 personnes à bord qui s'écrase au Québec à toutes les 2 semaines. Là. Est-ce qu'on aurait attendu autant d'écrasements d'avions avant de réagir? Je pense pas, là. T'sais.
De ce côté-là, Martine, tu es pratiquement devenue une spécialiste. Tu as décidé de faire de la mort de ton fils une bataille.
C'est sûr que j'en fais une bataille. Écoute, tu sais, je suis pas spécialiste, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je suis quand même vétérinaire. Donc, j'ai quand même des notions de médecine, de médication, tout ça. Je peux comprendre pas mal de textes que j'ai lus. Donc, je me suis vraiment beaucoup, beaucoup documentée. Puis, je peux dire à travers les recherches, pas mal tout le monde dit la même chose, là. Tu sais, en gros, on a compris que les problèmes de santé mentale, 70 % ça commence avant l'âge de 24 ans. Puis, 50 % c'est avant l'âge de 14 ans. Fait que moi, ma question, c'est, tu sais, en quelque part, pourquoi est-ce que je vais attendre que la personne est rendue en psychose ou qu'elle est en train de penser, bon, ben comment je mets fin à mes vies, là, je commence à grimper dans le pont ou je m'en vais m'acheter une corde. Là. Les enfants, il faut diagnostiquer les problèmes jeunes. En ce moment, tu n'as pas de psychologue dans les écoles. Les enfants ne sont pas outillés. Donc, moi, c'est sûr que je veux que les choses bougent. Là, on est en période électorale. J'entends pas parler pantoute de la santé mentale. Pourtant, en Ontario, c'était un des enjeux majeurs, la santé mentale. Puis eux, ils ont moins de suicides que nous, on a par capita là, au Québec. Donc, moi, je trouve que la santé mentale, il est pas mal temps qu'on s'en occupe, là.
Et justement, pour répondre à ta question, Martine, demain, on aura les candidats aux prochaines élections dans le secteur de Lévis qui vont venir nous parler de santé mentale. Donc, ils seront là justement pour répondre à tes questions. Et également, parlant de jeunes qui malheureusement s'enlèvent la vie, nous avons avec nous au bout du fil Mme Karine Pelletier qui, elle, a perdu sa fille de 14 ans. Mme Pelletier, bienvenue à l'émission « L'envers de la médaille ».
Bienvenue.
Madame Pelletier, racontez-nous dans quelles circonstances, malheureusement, votre fille s'est enlevée la vie volontairement.
Écoutez, moi, dans le cas de Noémie, quand Martine parle là, dans les statistiques du 50 %, moi, Noémie avait 14 ans au moment des faits, donc elle rentre dans ces statistiques-là. Si j'avais à la décrire, c'était un cœur sur deux pattes, toujours joyeuse. À son entrée au secondaire, j'ai commencé à voir un changement de tempérament. Mais bien sûr qu'une entrée au secondaire, en tant que parent, on se dit tous qu'il y a une période d'adaptation, nouvelle fréquentation et tout et tout. Et dans le cas de Noémie, c'était une dégringolade par rapport à l'intimidation, les conflits de popularité entre jeunes filles, par rapport aux jeunes garçons. Il y a eu un début de consommation dans le cas de Noémie, que ce soit alcool, que ce soit cannabis, que ce soit même les boissons énergisantes. Rapidement, j'ai demandé de l'aide au niveau des services, au niveau public. On parle de CLSC. Bon, naturellement que là, Noémie avait pas fait sa première tentative, donc on nous avait mis sur une fameuse liste d'attente qu'on appelle. Et tout ça me mène assez rapidement en octobre 2012 où Noémie fait une première tentative de suicide. Et moi, ce soir-là, je la sauve. Donc, ça enclenche une hospitalisation. Et là, ça enclenche les services. Parce que là, on est sur la panique. Là, on se dit, oh, on peut plus attendre la liste d'attente. Là, c'est criant dans son cas. Et tout ça, moi, pour me faire dire, parce qu'on arrive dans un centre hospitalier général qui est pas spécialisé en santé mentale. Et écoutez, moi, de mon côté, je fais des appels. Le centre hospitalier essaie de se mobiliser pour ma fille. On appelle à Sainte-Justine en santé mentale au niveau de la pédopsychiatrie. On se fait dire qu'il n'y a plus de lits disponibles, il manque de ressources, on ne peut pas la prendre. En d'autres mots, on m'a carrément dit, on ne peut pas la prendre ici. On s'est tourné vers Montréal, vers des centres hospitaliers en santé mentale. Et tout ça pour me faire dire que dans le cas de Noémie, c'était très difficile de la diagnostiquer. expliquer que ça prend une certaine expertise, un certain nombre de temps avant de diagnostiquer quelqu'un. Et puis pendant tout ce temps-là, moi, Noémie montre qu'elle file le parfait bonheur, mais moi, à la maison, je vois que Noémie va pas bien. Je commence à me rendre compte au niveau du sommeil que c'est différent. Sa perte d'appétit, sa perte d'intérêt. Bon, il y a plein de choses qui ont fait en sorte, qui ont contribué à sa dégringolade.
Vous avez même suivi une thérapie avec elle.
Oui, moi, je me suis mobilisée avec Noémie. On avait une thérapie mère-fille, dont une semaine Noémie seule, l'autre semaine moi avec elle. J'avais enclenché un autre endroit où c'était des thérapies pour aller creuser pour les consommations, parce que c'est clair que, oui, les jeunes vont le dire, c'est le fun, on aime le, ils appellent ça le buzz que ça donne, mais je veux dire, au final, si on va chercher un réconfort dans ça, c'est parce que ça cache quelque chose en dedans. Il faut aller creuser, il faut aller voir la cause. J'avais enclenché ça avec Noémie. Ensuite de ça, il y avait l'école, les services à l'école. Autant la direction générale était au courant de la situation de Noémie. Donc, en tout temps, Noémie pouvait se rallier à quelqu'un à l'école. Si Martine parlait tantôt, hein, il n'y a pas de psychologue dans nos écoles, malheureusement. Puis dans le cas de Noémie, ben souvent, elle aurait eu recours à ce service-là. Et là, malheureusement, c'était la direction du niveau qui prenait en charge parce que manque de d'effectifs dans les écoles au niveau santé mentale. Donc, et là, tout ça nous a mené rapidement dans un délai de 3 mois, je vous dirais, où Noémie s'est sentie essoufflée, a demandé de cesser certains services. Et on m'a clairement expliqué que, étant donné qu'il manquait de ressources, on va se tourner vers des parents ou des jeunes qui veulent vraiment bénéficier. Dans le cas de Noémie, c'est du un adolescent, là, c'est vraiment déplorable. À 14 ans, elle était en mesure de dire « je ne veux plus de suivi », alors que je me dis l'âge de majorité, c'est 18 ans. Pour l'alcool, les cigarettes, c'est 18 ans. Mais à 14 ans, sont capables de dire dans les milieux hospitaliers ou dans les lieux de santé, de dire moi j'interromps mes services parce que je considère que j'en ai pas besoin.
Exactement, c'est... ça c'est un tout autre débat, à savoir si les adolescents sont assez matures pour décider d'eux-mêmes de prendre leur médication ou non. Mais la fin, malheureusement, on a abandonné Noémie et la fin a été tragique, Mme Pelletier.
Oui. Noémie, je vous dirais, là, fin novembre, début décembre, a eu lieu la fin de plein de services autour d'elle. On avait maintenu la thérapie mère-fille, mais de toute évidence, c'était pas assez. Et moi, le soir du 11 décembre 2012, j'étais en thérapie mère-fille avec Noémie ce soir-là. On a constaté que Noémie n'était pas mentalement présente. On n'en a pas fait de cas. Je suis rentrée à la maison. Elle a fait sa douche. J'ai vu qu'elle avait changé un peu sa dynamique là, de la soirée. J'en ai pas fait de cas. Et malheureusement, là, à mon arrivée, moi, pour aller me coucher, j'ai trouvé ma fille qui s'était suicidée dans sa chambre à coucher.
Et elle avait choisi un moyen malheureusement très drastique et elle avait même regardé comment mettre fin à ses jours quelques semaines, quelques mois avant.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai mis la main sur son cellulaire et j'ai fait investiguer son cellulaire dans les semaines et les mois avant son suicide. Et j'ai découvert qu'elle avait été voir justement sur les problèmes de santé mentale, voir sur bon tout ce qui était alimentation, consommation. Et j'ai trouvé le dernier lien qu'elle avait été voir 3 semaines avant, le lien qui voulait démontrer comment faire un nœud pour pouvoir se pendre.
Martine, les signes avant-coureurs, Martine, est-ce qu'on les voit?
Écoute, après le suicide, oui, tu es capable, quand tu as lu beaucoup, de dire, OK, il y avait ci, il y avait ça, mais c'était tellement des petites choses anodines dans le temps. Moi, des fois, je lui demandais, Patrick, peux-tu juste mettre la crocheterie après la clôture pour pas que les chiens aient dans la rue? Puis là, il me disait, ils sont bien stupides, les chiens. Puis il me faisait du petit bougonnage comme ça. Puis je comprenais pas comment qu'un gars de 20 ans, fils de vétérinaire, qui a toujours eu des animaux dans la maison, me répondait ça. Mais c'était des petites choses, c'était pas évident. Il y a une chose aussi que j'ai su après son suicide, c'est que Patrick, il s'auto-mutilait. Là. Il se coupait vraiment avec une lame de rasoir au sang. Il montrait ça à une de ses petites copines. Puis, une fois de temps en temps, je voyais mon Patrick avec un élastoplaste autour du bras gauche, puis je disais, autour du poignet gauche, puis je disais, Patrick, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh, maman, j'ai mal forcé. Ah, je peux-tu voir? Non, non, je suis correct, j'ai 20 ans, maman, je suis capable de gérer ça. Ah, OK. Mm-hmm. Moi qui est sportive, j'ai tout le temps un élastoplaste en quelque part, je n'ai pas fait de cas. Sauf qu'après coup, quand on m'a dit, puis ton fils s'automutilait, j'étais comme maudit. L'élastoplaste, il était toujours sur le poignet gauche, il était jamais ailleurs, c'était pas une cheville, c'était pas l'autre bras. Mais, tu sais, sur le coup, on n'est pas outillé, la population, pour reconnaître ces petits signes-là, savoir quand ça dérape,
Et Patrick, lui, s'était confié à ses amis, mais malheureusement, les amis du même âge sont pas outillés non plus pour essayer de comprendre le désespoir.
Non, ils sont pas du tout outillés. Puis écoute, je parle à des gens qui ont mon âge, moi j'ai 55 ans, puis ils me disent, quand quelqu'un parle de suicide, c'est juste pour attirer l'attention, il fera pas, etc., etc. T'sais, fait que moi, les deux petites copines, surtout à qui Patrick se confiait, il y en a une des deux qui s'est dit, ben vu que Patrick m'a dit qu'il n'allait pas se suicider aujourd'hui, je l'ai fait promettre, il m'a dit qu'il allait attendre un an, donc je vais lui faire comprendre pendant cette année-là comment que la vie est belle, puis il ne se suicidera pas. Puis l'autre, elle a pensé plutôt que, bon, ben écoute, Patrick, il sait comment, il sait où, ça fait des milliers de fois qu'il me dit qu'il va se suicider, donc son idée est faite, puis je ne peux pas malheureusement le changer, peu importe ce que je dis. Mais tu sais, c'est pour ça, il faut les outiller, les jeunes, pour qu'ils reconnaissent en eux-mêmes les signes de dépression puis les idées suicidaires, puis qu'ils reconnaissent si ça arrive à leurs amis. Puis les ressources sont pas évidentes, il faut leur apprendre. Là. Moi, le 1-866 appelle, je savais même pas que ça existait là, avant le suicide de Patrick. Là. Puis ça, c'est parce que c'est le gouvernement qu'il faut qu'il fasse de la publicité, puis que Kim, il martèle partout le numéro, là, puis tel jeune aussi. Moi, je voudrais voir sur les cartes étudiants le numéro de tel jeune, le 1-866 appelle. Je veux que ce soit marqué dans les agendas scolaires. Je veux des psychologues dans les écoles. Je veux que le personnel enseignant, puis même les employés de soutien suivent la formation Sentinelle. Puis tant qu'à ça, moi, je vois pas pourquoi qu'on généraliserait pas ça dans toutes les entreprises. Là. Il y a plein de milieux. Moi, je suis dans le milieu vétérinaire. Il y a beaucoup de vétérinaires qui se suicident. Là. Fait que pourquoi que la CSST nous demande de faire un petit cours d'ambulance Saint-Jean, là, de premiers soins? Ben moi, je pense que là, les problèmes de santé mentale, c'est un Québécois sur 5 qui va être atteint d'un problème de santé mentale au cours de sa vie. Bien, Christy, on peut-tu outiller le monde, s'il vous plaît? Là, ça commence à presser. L'OMS dit qu'en 2020, la dépression, c'est la première cause de morbidité. Puis en 2030, ça va être la première. Fait que là, je dis, on peut-tu se réveiller au Québec? Là, leur plan d'action en santé mentale, il devait être mis en place en 2015-2020. On arrive en 2019. Moi, j'ai pas vu plus d'annonces à la dépression, puis je me sens pas plus outillée. Je me suis outillée moi-même.
Madame Pelletier, vous aussi, vous voulez faire de l'histoire malheureusement triste de votre fille un exemple, vous voulez essayer de faire des conférences dans les écoles?
Oui, tout à fait, dans les écoles. J'ai eu une demande récemment au niveau même d'un CLSC auquel il m'avait pris en charge moi après le suicide de ma fille, maintenant pour en donner un témoignage qui est un groupe plus spécialisé là, de personnes endeuillées qui ont perdu quelqu'un par suicide. Je suis maintenant en train de monter une nouvelle conférence avec des statistiques pour rentrer dans les écoles, tout ça, parce qu'il y a une demande qui est là. Mais je veux dire, moi seule, je peux pas y arriver. Martine seule peut pas y arriver. Il faut vraiment se mobiliser. Il faut vraiment faire passer un message clair, parce que les statistiques sont là. Martine vient de les nommer. Puis plus ça va aller, pire que ça va être. Malheureusement, c'est pas un mal physique, hein. Nos enfants perdent pas les cheveux, ils ont pas le cancer, ils ont pas la leucémie, ça ne se voit pas. Mais je veux dire, c'est aussi criant parce qu'ils finissent par mourir quand même, là. Donc,
Exactement. Je pense que le message, il faut qu'il passe. Et malheureusement, il passe pas bien. On le voit même malgré toutes les campagnes. Mais je pense que c'est avec des témoignages comme le vôtre, comme celui de Martine, qu'on va réussir à faire bouger les choses, du moins un petit peu, mais un petit pas pourra peut-être être un jour un grand pas. Et d'ailleurs, demain, on aura les candidats des élections, justement les quatre candidats principaux pour les prochaines élections qui vont venir nous parler de santé mentale. Je pense qu'on va pouvoir au moins avoir vraiment l'or juste là-dessus, à savoir qu'est-ce que nos gouvernements ont l'intention de faire. Parce que, parlant de chiffres, juste avant d'aller à la pause, là, question de vous mettre un peu l'eau à la bouche, et par la suite, on parlera avec Mme Sylvie Fournier. Mme Fournier, elle, elle a perdu sa fille de 22 ans, qui était trouble de personnalité limite, qui a décidé de mettre un organisme sur pied. Donc, on voit que les parents là, se prennent en main lorsqu'ils peuvent et malheureusement, lorsqu'ils sont touchés. On parle là, juste... On sait que tout le monde fait du vélo, là, tout le monde fait de la bicyclette. Là. Ben, savez-vous qu'il y a seulement 6 accidents mortels par année au Québec? Par exemple, les fameux orgnaux, on sait qu'on frappe des orgnaux, il y en a 6 par année où ça va être mortel, mais pourtant, il y a des clôtures, il y a des panneaux pour aviser qu'il y a des orgnaux sur notre route partout au Québec. Suicide, on a quoi? On n'a rien. 60 accidents de travail par année, des accidents mortels, CSST. 50 personnes par année décèdent en moto. 80 personnes, malheureusement, décèdent avec la fatigue au volant. Voyez-vous, c'est des chiffres qui parlent. Mais savez-vous, celui du suicide, je vais le répéter, même si Martine l'a dit, c'est 1000 par année et depuis 40 ans. Mm-hmm. Depuis 40 ans, c'est plus de 50 000. Et encore là, on n'a rien fait. Donc, on va à la pause. On revient dans quelques instants.
CJMD 96.9 Lévis.
Vous le savez déjà, je vous l'ai dit, le Rina Saint-Romuald vous propose maintenant un nouveau menu. Nouveau. Pour tous les goûts et budgets et surtout, toujours délicieux à souhait.
Après tout, ça reste un Rina.
Nathalie et Jean se feront un plaisir de vous préparer de savoureuses boissons et cocktails. D'ailleurs, mentionnez CJMD sur place et on vous offre un verre gratuit à notre santé. Yaman, mais c'est seulement à un seul endroit. Au Rina Saint-Romuald, 950 La Concorde.
The Funky Station. The Alternative Radio. La station du Mont Fly. La radio de Lévis.
La radio de Ben, c'est sérieux.
L'Alternative Radio.
L'Inventaire, c'est une boutique éclectique où l'univers des gadgets pratico-pratiques est à son meilleur. Vous trouverez facilement un cadeau pour quiconque et peut-être même pour vous. Pour les petits et les grands, nos trouvailles et inventions ont toutes un but commun, de joindre l'utile à l'agréable. 833 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Sortez de l'ordinaire. Venez en boutique avec plus de 700 idées cadeaux originales et inusitées. Vous trouverez le cadeau chez L'Inventaire ou visitez le www.boutiquelinventaire.com.
Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée.
Le bloc est pas.
Ça n'a aucun sens. C'est ça qui est fat, man. De toute façon, on le dit dans le jingle d'entrée d'émission, l'émission qui suit contient des passages qui pourraient être offensants pour les jeunes auditeurs, en tout cas.
J'aimerais qu'il n'y ait pas le même discours quand il est le midi puis quand il est dans le bar.
Ah, c'est deux bigs différents.
Non, mais c'est ça, mais c'est normal, man. C'est normal, c'est deux vibes différents.
C'est pas de ma faute, hein. C'est Aymeric qui me dit d'être vulgaire.
Ne manquez pas tous les jeudis, 20h au 96.9, Le Bloc. Et restez à l'écoute parce que parfois ça étire.
Le Bloc! Avec Big M, RMS et Pro. Jeudi 20h à CJMD 96.9 FM.
What the fuck is Bloc?
Tu veux aller à Nashville, mais t'as pas le temps. Samedi le 22 septembre, le Nashville Trio va te faire vivre Nashville au bar Le Cluster de Lévis pour 15$.
Tu vas entendre Alan Jackson, Johnny Cash, Buck Owens, Dwight Yoakam, Johnny Orton et plusieurs autres.
La gang à Buddy Sam Walker ont fait sale comble au vieux bureau de poste en mai dernier. Cette fois-ci, l'action se passe au Cluster. Pour info, 88-805-6042 ou facebook.com/ Buddy Sam Walker.
15h22 au FM 96.9 CJMD. Vous êtes avec les Stéphane Tremblay, l'émission L'envers de la médaille. On parle d'un sujet tabou, mais un sujet très important, le suicide et les signes avant-coureurs. On a avec nous Martine Brault, qui malheureusement a perdu son fils Patrick l'an passé, 6 septembre. C'est très récent, mais Martine, au lieu de s'apitoyer sur son sort, a décidé d'en faire une bataille et de vraiment s'informer. Martine, t'as vraiment beaucoup, mais beaucoup, et tu lis encore beaucoup sur le suicide.
Ah, écoute, facilement, là, je peux lire 20-30 heures par semaine. Là, je sais pas, je commande, j'ai des caisses et des caisses là, d'articles de psychologie, de psychiatrie. J'ai été voir qu'est-ce qui se faisait dans les autres pays. J'ai été voir qu'est-ce qui se faisait au Maryland, parce que je trouvais qu'il y avait un beau programme qui visait surtout les jeunes.
Parle-nous-en.
Bien, le fait qu'eux ont décidé de s'occuper de diminuer le taux de suicide chez les jeunes. Ils ont dit, les personnes plus vieilles, on va les laisser tomber, on va se concentrer sur les jeunes, étant donné que 70 % des problèmes de santé mentale, ça commence avant 24 ans, puis 50 % c'est avant 14 ans. Mais la beauté de leur programme, c'est que finalement, en bout de ligne, ça a diminué le taux de suicide dans toutes les catégories d'âge. Là. Donc, ils ont vraiment des belles idées. Là.
Donc, ces signes, que ça peut s'améliorer. Malheureusement, ici, on n'a peut-être pas la volonté, mais on le voit ailleurs. Si on pose des gestes concrets, on a des résultats concret et positif.
Oui, puis c'est sûr, comme tu dis, là, la volonté, je ne suis pas sûre qu'on l'a. Là. Il y a 40 ans, on avait 2200 décès sur nos routes. Le gouvernement a travaillé, on a baissé ça à 359. Puis pourtant, le suicide, on était à 1000 il y a 40 ans, on est encore à 1000. T'sais. Donc, tu as trois fois plus de décès par suicide que par accident de la route. Fait que j'aimerais bien ça que le gouvernement se réveille un peu. Là.
On va aller voir Mme Sylvie Fournier qui est au bout du fil. Mme Fournier, malheureusement, vous aussi, vous avez perdu votre fille de 22 ans qui s'est volontairement enlevé la vie et vous avez décidé de créer un organisme pour aider les gens.
Oui, effectivement.
Donc, parlez-nous justement de votre situation.
Pardon?
J'ai dit, parlez-nous de votre situation. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez vu venir les signes avant-coureurs, malheureusement, du décès de votre fille?
Non, malheureusement, non. Ça a été assez soudain pour ma fille. C'est suite à une rupture amoureuse. Une semaine avant, j'avais eu une nouvelle et tout allait bien. Elle a rejoint son copain à Vancouver, mais elle n'a pas pu se rendre là. Puis tout a flanché, comme on dit. Donc, la relation et le copain aussi. Et ma fille était TPL, donc... c'est sûr que quand il arrive des drames comme ça dans sa vie, par-dessus, en plus de la maladie, donc elle a pas tenu le coup. Elle a perdu son combat, comme on dit.
Est-ce que vous l'avez essayé de l'épauler là-dedans ou malheureusement, il était trop tard?
Il était trop tard. Moi, j'ai pas été mise au courant de la situation. Ma fille était majeure et vivait à Montréal, donc j'ai pas eu de signe avant-coureur. Moi, la dernière fois que j'avais parlé, tout allait très bien une semaine auparavant. Là.
Vous avez mis sur pied un organisme pour venir en aide aux gens, pour essayer de sensibiliser, même si le Québec au complet essaie depuis plus de 40 ans, pour pourrait dire depuis le monde et monde, qu'on essaie de sensibiliser les gens au suicide, mais malheureusement, le message ne passe tout simplement pas.
Bien, ce qu'on essaie de faire, nous, effectivement, c'est plus au niveau des personnes qui ont une problématique de TPL. Nous, on est là pour les diriger vers les bons organismes et puis vers les services. Les attentes pour les thérapies sont très longues. Donc, on est un petit peu comme la zone tampon pour eux. Là. On est là pour eux, pour les épauler là-dedans, puis... les aider au niveau quand ils ont des crises ou des idées suicidaires, on les réfère. Nos bénévoles ont la formation Sentinelle des centres de prévention suicide. Donc, on fait beaucoup de prévention à cet effet-là.
Dernière question. Est-ce que vous croyez que tout le monde devrait avoir la formation Sentinelle?
Tout à fait. Surtout les personnes qui ont un proche, qui ont une problématique en santé mentale, où ils devraient suivre la formation, parce que on voit pas toujours les signes avant-coureurs et ça serait, c'est une super formation, la formation Sentinelle.
Madame Fournier, merci beaucoup de votre visite à l'émission à l'envers de la médaille. On vous souhaite bonne chance justement pour poursuivre votre débat parce que c'est un débat quotidien, mais c'est un débat qui est très demandant également.
Tout à fait, mais en tout cas, on est là pour aider les jeunes qui sont prises avec un TPL, puis on les renforce positivement.
Ben merci beaucoup.
Parfait, merci, au revoir.
Martine?
Oui.
Lueur d'espoir?
Oui, mais pourquoi que c'est pas le gouvernement qui s'occupe de ça, là? Pourquoi c'est pas Sylvie qui doit travailler, tu sais, fort? Je pense pas qu'elle a un gros salaire. Tu sais, ça prendrait de, tu sais, le gouvernement devrait injecter de l'argent, là, dans ces entreprises-là qui essayent d'aider les gens, mais ils ont pas de fonds, eux autres, là. C'est difficile pour eux d'arriver, là. Elle doit travailler toute sa semaine. Puis après ça, ben, elle essaie de répondre sur Facebook à son organisme, essayer d'aider les gens là, qui sont dans le besoin. Là. On devrait avoir quelque chose de plus centralisé. En tout cas, c'est comme les centres de prévention du suicide. Je ne suis pas sûre que le gouvernement leur donne ben de l'argent. Là. Moi, j'ai compris que c'était surtout des dons. Mais de toute façon, tantôt, on va parler avec Linda là, du centre de prévention du suicide. Fait qu'elle pourra nous outiller là-dessus.
Il
là.
Faut justement comprendre que le suicide, c'est quelque chose qui, malheureusement, s'est préparé d'avance. Et dans bien des cas, il y a plusieurs années d'avance, parce que ça a commencé dès son jeune âge, qu'on se sentait un peu mal pris, qu'on se sentait pas à notre place dans la société.
Oui, ben moi, je pense que c'est le genre de profond mal-être, là. Patrick, ce qu'il disait à ses deux petites copines, c'est que, tu sais, je suis triste, je pense qu'il y a personne qui m'aime, je trouverai jamais de blonde. Tu sais, c'est comme le gros désespoir noir, là. Puis après ça, ben là, embarque les idées suicidaires, là. Tu sais, dans le fond, ben si la vie, ça vaut plus la peine, je vais me l'enlever. Personne va se rendre compte que je suis partie. Puis tu vois que les personnes, vraiment, ils partent sur une vape, ils sont plus là. Puis on les diagnostique beaucoup trop tard. Tu sais, moi, en médecine, je regarde, là, les mammos, ils nous font faire des mammographies. Ils nous disent pas, madame, attendez que votre tumeur mesure 4 pouces, puis là, vous viendrez nous voir. Mais c'est un petit peu ça qu'on fait en santé mentale, là. Tu sais, quand la personne est en train de s'acheter une corde, là, puis où, tu sais, on la ramasse à moitié pendue, c'est comme, ah, ben là, vous avez besoin de soins, on va vous aider, là. Mais ben, là, c'est parce que ça coûte beaucoup plus cher, là, quand t'es rendu à faire du curatif qu'à faire du préventif. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a dit que si on investissait 1$ pour prévenir, puis traiter, diagnostiquer la dépression, ça allait en rapporter 4. Puis chaque suicide, ça grève l'économie québécoise de 850 000 $. Je n'ai pas fait le calcul, là, mais c'est 850 000 fois 1000 fois 40 ans. Ça commence à faire pas mal d'argent. Là,
exactement. On voit, Martine, vraiment que tu as étudié beaucoup sur la question. Tu as vraiment des chiffres très saisissants. Et vous allez voir qu'après la pause, il n'y a personne qui est à l'abri, même pas une policière.
CJMD 96.9, l'alternative radio.
La trop d'hirondelles, outre le corbeau. La trop d'hirondelles, outre le corbeau.
CJMD 96.9 FM. Pensez à Ninette. Ce sont les experts en ménage résidentiel dans la région de Lévis. En plus d'être le service voyage de surveillance d'animaux et de domicile ou les deux, aninette.ca. Parce qu'un soin pour votre foyer, c'est aussi un soin pour vous. Faites-vous faire une soumission, c'est gratuit. Quand vous aurez conclu que c'est fait pour vous, votre facture sera faite à l'heure, vous bénéficierez de leurs services garantis et de leurs assurances qui vous protègent de tout dommage. Et c'est écolo aussi. Ils soignent votre résidence et vos animaux avec des produits éco. That's aninette.ca 581-984-3680. Pensez à Ninette. Ce sont les experts en ménage résidentiel dans la région de Lévis. En plus d'être le service voyage de surveillance d'animaux et de domicile ou les deux, aninette.ca. Parce qu'un soin pour votre foyer, c'est aussi un soin pour vous. Faites-vous faire une soumission, c'est gratuit. Quand vous aurez conclu que c'est fait pour vous, votre facture sera faite à l'heure, vous bénéficierez de leurs services garantis et de leurs assurances qui vous protègent de tout dommage. Et c'est écolo aussi. Ils soignent votre résidence et vos animaux avec des produits éco-sûrs. That's it. Aninette.ca 581-984-3680.
Du 13 au 22 septembre, assistez au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Un festival de surprises, de découvertes, d'émotions, de plaisirs, de projections, de jeux, de sourires, de stars, de premières, de vues, de rencontres, d'histoires, de parties, de couleurs, de beaux mondes, de fun noir, de grosses larmes, de cinéma. Présenté par Québecor, alimenté par Resto Plaisir en collaboration avec le Concorde.
Maxiforme.
forme. Un gym vraiment complet. Ouvert 24 heures, 7 jours sur 7. C'est les meilleurs gyms.
5 succursales.
Lévis, Saint-Apollinaire, Charny, Québec et Sainte-Foy. Non seulement vous profitez de 100$ de rabais sur l'abonnement annuel, mais on rachète le vôtre si vous souhaitez profiter de notre offre. Être en forme et en santé, c'est abordable chez Maxiform. Fini les excuses. Pour info,
maxiform.com. Maxiform.com.
Putain, de temps, c'est fait descendre. On a plus de munitions.
Passe-moi la radio. Allô, 96.9. Line, rappliqué. On a plus de matériel.
Nous avons besoin de renfort. Mais soutien aérien, maintenant. Viens, 96.9.
15h33, Stéphane Tremblay aux commandes de l'émission L'Envers de la médaille, l'émission qui vous permet de connaître les deux côtés de la médaille, qui vous permet également de parler des sujets chauds de l'actualité. Et cette semaine, on parle de la prévention du suicide. Et quand on dit que personne n'est à l'abri, vous savez, l'image, la policière, le policier, c'est l'exemple quand on est un petit garçon ou une petite fille, on veut devenir une policière ou un policier parce que c'est fait fort, c'est capable d'en prendre. Mais vous allez voir qu'il y a des policières, comme tout le monde, malheureusement, sont pas à l'abri de la dépression. Et nous avons avec nous, au bout du fil, on va taire son nom parce que justement, elle est toujours policière. On va l'appeler la policière. Donc, on vous souhaite la bienvenue à l'envers de la médaille. Vous êtes là?
Oui, je suis là, oui.
Excellent. Parlez-moi, la dépression, vous l'avez vécue personnellement, et vous êtes une policière, l'image de la policière, c'est est-ce que c'est encore plus difficile dans ce moment-là?
Je dirais que oui, c'est difficile. Nos proches aussi, les gens ont encore, malheureusement, en 2018, une mauvaise vision de la santé mentale comme étant des personnes lâches, des personnes qui vont pas bien, mais je dirais que ça s'améliore depuis quelques années, là. Mais oui, c'est assez difficile d'en parler avec les collègues aussi.
Comment une policière peut tomber au combat? Qu'est-ce qui est arrivé?
En fait, moi, c'est ça, c'est hors du travail. C'est durant mon adolescence, j'ai vécu l'intimidation. J'ai trouvé ça très difficile d'en parler. Comme on disait avec Martine, c'est les signes qu'on est atteint nous-mêmes d'une dépression, les signes qu'on va pas bien, on les voit pas. En étant pris dans cette dépression-là, j'ai sombré sans m'en rendre compte. J'étais trop jeune, pas outillée pour voir ce que je vivais moi-même. J'allais pas bien, j'allais de moins en moins bien, j'en ai même pas parlé à mes parents, puis c'est rendu au fond du baril en ayant dit à mes parents que j'allais m'enlever la vie, que là, ils m'ont emmené à l'hôpital.
Et par la suite, ça nous suit dans notre adolescence, dans notre pré-adulte, dans notre adulte, dans notre mère de famille, dans notre vie de femme?
Oui, ça nous suit, mais moi, par chance, en ayant été prise à temps, j'en ai grandi, j'en suis sortie plus forte. Malgré que je travaille à temps plein, je suis les cours à l'université pour pouvoir mieux aider les gens que je croise dans tout au long de mon métier. J'ai pris des cours en santé mentale, en toxicomanie, sur le suicide. Puis c'est au cours de cette session-ci que j'ai, avec mon cours sur le suicide, que j'ai vraiment pu mettre des mots sur toutes les étapes que j'ai vécues de la dépression, c'est-à-dire quand on commence avec des idées noires, puis ensuite on imagine un moyen pour s'enlever la vie. Mais tu sais, c'est passager, mais plus on sombre, moins on parle. Il y a un dicton qui dit tu ne t'exprimes pas, ça s'imprime. C'est vrai. C'est si on dit pas ce qu'on ressent, ça reste encore plus fort en dedans de nous. Puis c'est ce qui est arrivé pour moi. Puis j'ai été prise juste à temps parce que j'ai exprimé à la dernière minute que j'allais m'enlever la vie. Puis que j'étais amenée au centre pour de psychiatrie.
Martine, ça te parle un témoignage comme ça?
Oui, c'est sûr, c'est encourageant de voir que, tu sais, les gens peuvent s'en sortir. C'est juste triste, par contre, qu'il y ait à vivre, tu sais, aussi longtemps avec cette détresse-là avant de réussir à avoir de l'aide, là, tu sais. Mais c'est ça, il faut vraiment éduquer tout le monde, là, de la population, les jeunes, les moins jeunes, qu'on puisse savoir c'est quoi les signes d'une dépression. Tu sais, on voit des annonces à la TV, on nous explique les signes d'un AVC. Ben moi, je pense que, tu sais, ça serait peut-être important qu'on apprenne les signes aussi de la dépression. Qu'est-ce que ça dit quelqu'un de dépressif? Qu'est-ce que ça dit quelqu'un de suicidaire? Tu sais, il faut vraiment s'outiller mieux, là.
Et de ce côté-là, justement, on a une policière au bout du fil et je ne peux m'empêcher de montrer l'exemple comment, des fois, les gouvernements font la sourde oreille. Par exemple, on a encore 1000 décès de suicide par année et on n'a jamais changé ça depuis 40 ans, mais il est arrivé un incident en 2012. Deux policiers qui, malheureusement, ont été atteints mortellement alors qu'ils se trouvaient en bordure de la route. C'est drôle. On a mis de l'avant le fameux corridor de sécurité depuis 2012. Les policiers, les ambulanciers, les employés de Transport Québec, les remorqueurs, ils ont tous eu un jour peur de justement laisser leur vie. Ben, on a mis de côté, on a mis un corridor de sécurité et ça, c'est depuis 2012. Et si on ne respecte pas le corridor de sécurité qui est de changer de voie lorsqu'il y a un véhicule là, d'urgence qui est en bordure de la route, ben, on risque une amende de 200 à 300 $ et la perte de 4 points d'inaptitude. Martine, ça doit vraiment te parler quand je sors des chiffres comme ça. Deux policiers qui sont décédés, on a mis de l'avant un corridor de sécurité. Même la policière qui est au bout du fil aussi, ça doit vous parler. Comment qu'on explique qu'on fait rien ou à pratiquement rien pour le suicide au Québec?
Bien, c'est un petit peu choquant, là. Des fois, c'est à se demander, ça vaut quoi la vie d'une personne qui est dépressive, là, par rapport à la vie d'un autre, là? Moi, je pense que la vie de tout le monde est importante, là. Tu sais, c'est comme les attaques de chiens. Il y a une personne qui est tuée dans le Canada au complet par une attaque de chien. Je suis vétérinaire. C'est bien sûr, j'ai pas envie de mourir d'une attaque de chien. Je fais du vélo. J'ai pas envie de me faire écraser non plus en vélo. Mais là, je me dis, coudon, j'ai pas eu la dépression. Je veux pas l'avoir non plus, mais tu sais, je me dis, garde tous ces gens-là qui souffrent en douleur, tu sais, qui souffrent, puis que finalement se sont enlevés la vie. Tu sais, on les a tous laissés tomber, ce monde-là. Là. Il y avait toute une maladie qui était, tu sais, qui était majoritairement traitable, parce qu'on dit que 95% des suicides, c'est un problème de santé mentale. Puis majoritairement, selon, en tout cas, les lectures qu'on lise, mettons, c'est à peu près 80%. Ces personnes-là, il y avait la dépression. Fait que je dis, mais ça a aucun bon sens qu'on fasse rien, là. Puis moi, à tous les soirs, quand je me couche, ce qui me motive à continuer, puis de faire une autre journée à me battre, si je me dis, à soir, quand tu te couches, il y en a encore 3 autres de mort. Puis demain, il va en avoir encore 3 autres. Fait que moi, je suis pas capable d'accepter ces statistiques-là. J'ai perdu 6 personnes que j'aime, des amis, mon fils par suicide. Puis là, quand ça a été mon fils, par exemple, ça a été le coup que je me suis dit, oh, là, fille, tu vas te réveiller, tu vas aller lire, tu vas t'informer. Puis c'est là que j'ai appris toutes ces statistiques-là. Puis c'est là que ça m'a plutôt révolté, enragé, je peux dire même. Puis j'ai décidé d'en parler, puis de dire, gars, moi, je lâcherai pas le morceau, là, tant que ça baisse pas le taux de suicide, là.
La policière qui est au bout du fil avec nous, ça doit même changer votre intervention lorsque vous avez à faire face à des gens aux idées noires.
Oh oui, vraiment, justement, pendant que vous en parliez, je revoyais malheureusement les suicides sur lesquels j'ai dû intervenir. Puis je vous dirais que oui, je suis très, très empathique à ces personnes-là. Je me dis la souffrance qu'ils devaient vivre pour en arriver à ces fins-là, puis voir les interrogations de la famille, puis justement leur dire que c'est pas de leur faute, c'est une maladie, que c'est des gens qui souffraient tellement, c'est pas qu'ils voulaient plus vivre, c'est qu'ils ne voulaient plus souffrir. Donc j'ai vraiment une très grosse empathie, j'essaie de pouvoir répondre le plus possible aux questions de la famille, puis qui sont dans l'inconnu. Puis, je vous dirais que oui, c'est vraiment... Faut garder notre sang-froid, justement, en ayant vécu cette douleur-là, en ayant vécu cette... la distorsion qu'ils vivaient, les personnes qui étaient malades. J'en reste sans mots encore aujourd'hui, malgré que ça fait un certain moment que je m'en suis sortie. Mais oui, l'empathie, pour eux qui sont plus avec nous, je peux rien faire, mais pour la famille, c'est très difficile.
Et justement, comment on fait notre quotidien lorsqu'on sait qu'on a eu une faiblesse? Est-ce qu'on fait plus attention maintenant?
Oh oui, vraiment. Les signes, c'est une journée qui a été plus difficile. J'essaie de me souvenir des bons moments, puis pourquoi je m'en suis sortie, puis que mes parents ont été là, mes amis ont été là, mon frère a été là. Je me dis que ça en vaut la peine. Puis j'ai promis à mes parents, parce qu'en étant justement policière, on voit des choses qui ne sont pas faciles, on voit des choses que la plupart des gens ne vont pas. En fait, nous, on court vers une direction que les gens s'en vont. Donc, je leur ai promis que si jamais je n'allais pas bien, j'allais parler. Puis moi, aujourd'hui, j'en parle avec mes collègues, je suis présente pour eux. Puis ils savent que... Certains savent mon historique, donc savent que... qui doivent être un peu plus à l'écoute.
Ben merci beaucoup du témoignage et j'espère justement qu'il y a d'autres personnes qui vont écouter, qui vont se dire qu'il y a toujours de l'espoir. Vous êtes la preuve. Vous avez vécu de l'intimidation. Aujourd'hui, vous êtes une policière. Vous êtes un exemple pour bien des filles.
Mm-hmm. Oui, ben j'aimerais juste rajouter que si jamais les gens vont pas bien et vous ne savent pas quoi faire, oui, il y a comme on disait, il y a le centre de prévention, il y a la QPS, il y a les ressources pour les familles comme la boussole, mais ils peuvent toujours faire le 911, puis on va être là pour les aider.
Merci beaucoup.
Merci.
Martine, le mot de la fin là-dessus.
Ben écoute, je pense que c'est un beau message d'espoir, là. Puis c'est sûr qu'il faut qu'on continue de travailler en recherche puis trouver de la nouvelle médication puis diagnostiquer les maladies tôt. C'est vraiment la clé, je pense.
Après la pause, vous avez tous entendu parler de l'histoire de Jean-Michel Fortin qui malheureusement a été retrouvé sans vie. C'est très récent, la semaine dernière. C'est un père de famille. On va parler avec sa sœur qui nous dit que Jean-Michel aussi a été abandonné par le système de santé.
Maverick, c'est congelé, il est dans mes 96.9. Je vais l'abattre, je vais le shooter.
Hé, hey, R2-D2, tu as de grandes nouvelles pour nous. L'émission à 33 tours à l'heure change de case horaire. Si j'ai bien compris, à 33 tours à l'heure sera désormais diffusé, podcasté, baladotisé, les dimanches soirs de 18h à 20h. T'es bien certain de ça? Dès le dimanche 2 septembre, de 18h à 20h, soyez à l'écoute de À 33 tours à l'heure, animé par Lucas Jeanbert et Pierre Duquet. T'es d'accord avec ça, RDD2?
Seulement à CJMD969.ca, Lévis.
Du 13 au 22 septembre, assistez au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Un festival de surprises, de découvertes, d'émotions, de plaisirs, de projections, de jeux, de sourires, de stars, de premières, de vues, de rencontres, d'histoires, de parties, de couleurs, de beaux mondes, de fun noir, de grosses larmes, de cinéma. Présenté par Québecor, alimenté par Resto Plaisir en collaboration avec le Concorde.
Le Cluster Bar Spectacle.
C'est des 5 à 7 avec des chansonniers gratuits à tous les vendredis.
Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable.
Le Cluster Bar Spectacle, c'est situé au 93-20 boulevard Guillaume-Couture, coin Route-Lallemand. Vous allez le trouver, c'est écrit Cluster devant Bassis.
Le Cluster Bar Spectacle, c'est ta scène à Lévis.
Du 13 au 22 septembre, assistez au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Un festival de surprises, de découvertes, d'émotions, de plaisirs, de projections, de jeux, de sourires, de stars, de premières, de vues, de rencontres, d'histoires, de parties, de couleurs, de beaux mondes, de fun noir, de grosses larmes, de cinéma. Présenté par Québecor, alimenté par Resto Plaisir en collaboration avec le Concorde.
CJMD 96.9, l'alternative radio.
Du lundi au jeudi, dès 16h.
Politique correct avec Guillaume Raté-Côté.
Si on mettait Hugo Saint-Onge au pouvoir demain matin, ça pourrait ressembler le prix d'un gramme de gros OG Kush.
À mon avis, là, ça coûte pas grand-chose. Dans un monde d'offres et de demandes, c'est difficile d'établir, mais c'est quelques dollars le gramme. Là. Je te dirais, là,
c'est bien.
Quelque part entre 1 et 5 dollars le gramme parce qu'il a poussé dans le de bras de Jean Leloup. C'est pas spécial.
CJMD 96.9, c'est quoi? C'est l'alternative radio.
96.9, CJMD, Lévis.
Intellectuellement libre.
15h46, l'envers de la médaille avec Stéphane Tremblay aux commandes de CJMD. On parle cette semaine de suicide, les signes avant-coureurs, un sujet tabou, mais un sujet tellement important. Demain, on aura les candidats aux prochaines élections provinciales dans le quartier de Lévis pour venir nous parler justement de santé mentale. Quel est le programme de santé mentale de chaque parti politique? Demain, dès 15h, ne manquez pas ça. Au bout du fil, on a Andréane Fortin. Andréane, malheureusement, a retrouvé son frère il y a moins d'une semaine. Il s'était enlevé la vie. Andréane, bienvenue à l'émission, premièrement. Oui, Andréane? Tu es là, Andréane?
Oui, je suis là.
Mes sympathies, tout d'abord.
Ben, merci, c'est très apprécié.
Andréane, Jean-Michel, ton frère, père de famille d'un enfant de 2 ans, qui attendait un autre enfant, son épouse attendait un autre enfant qui malheureusement ne connaîtra jamais son père, c'est que ton frère, il avait laissé des signes avant-coureurs, mais malheureusement, on ne l'a pas écouté, c'est ça?
Exactement, c'est que Jean-Michel, à la mi-juin, il avait montré certains signes de détresse psychologique, des idées noires, tout ça. Donc nous, la famille, c'est certain qu'on avait pris ça très au sérieux, on l'avait interné à l'hôpital, au CHUV. Il a été pris en main quand même rapidement, mais en fait, on s'est occupé de lui pendant une semaine. Puis par la suite, on l'a retourné à la maison. C'est certain qu'il y avait certains suivis là, psychologiques et psychiatriques, mais faut croire qu'il n'y en a pas eu assez parce que le 19 août dernier, Jean-Michel s'est enlevé la vie. Je vous dirais que ça change le cours d'une vie. Ça l'a affecté et ça va affecter pendant longtemps un nombre de personnes que je ne peux même pas vous dire, là. Ça affecte tout le monde, ça affecte la famille, ça affecte les amis. Jean-Michel, c'était quelqu'un de tellement, tellement aimé de tous. Jamais on n'aurait pensé que ça pouvait se rendre là, c'est certain. Mais c'est ça, il avait quand même démontré des signes. Puis je pense que si les suivis avaient été mieux faits, ben on ne serait pas rendu là aujourd'hui.
Qu'est-ce qui a poussé ton frère à mettre fin à ses jours?
Ben, c'est difficile à dire. C'est sûr que, premièrement, je tiens à mentionner qu'il avait dit mot pour mot à la psychiatre qu'est-ce qu'il allait faire. Donc, lui, son plan était fait. C'est sûr que nous, la famille, on a été mis au courant quand tout ça a été terminé, hein, si on veut. Mais Jean-Michel était probablement en dépression majeure. Donc, c'est certain que pour en venir là, c'était pas juste une petite dépression là, qu'on règle facilement, là. Donc, c'est vraiment une dépression majeure qui l'aurait poussé là, au suicide.
Il y avait beaucoup d'amour autour de lui. On le voit, tu es sa sœur, tu viens témoigner. Il y avait un enfant de 2 ans, il attendait un autre enfant. L'amour, il y en avait autour de lui. Dans ce temps-là, c'est difficile à comprendre.
L'amour était là. Je pense vraiment que c'est plus justement une détresse psychologique qu'on n'est pas assez renseigné là-dessus pour agir de la bonne façon, ou tu sais, nous, on n'est pas éduqués à l'école pour savoir quoi faire quand les gens sont en détresse psychologique. On n'a pas assez d'informations là-dessus. Puis moi, aujourd'hui, la raison pourquoi j'accepte de parler à la radio, c'est vraiment de sensibiliser les gens dans la politique. C'est le temps qu'on fasse quelque chose. C'est un fléau. Il y en a tellement plus qu'on le pense. Puis moi, je l'avais jamais vécu de près. J'ai vu des gens beaucoup le vivre, mais je l'avais jamais vécu. Puis honnêtement, j'ai pas beaucoup d'ennemis, là. J'ai pas d'ennemis, mais je souhaiterais pas ça à personne. C'est épouvantable qu'est-ce qu'on a vécu là, dans les dernières semaines, ma famille et moi. Puis honnêtement, c'est le temps que quelqu'un se réveille et fasse quelque chose là, au niveau du gouvernement ou des hôpitaux. Tu sais, Jean-Michel, oui, il a été interné une semaine, mais il a été interné en hôpital psychiatrique. Mon petit frère, il n'est pas schizophrène, il n'est pas... je veux dire, c'est une personne super intelligente. Peut-être qu'il n'était pas au bon endroit aussi. Il ne se sentait pas à sa place là-bas avec plein de gens qui ont des problèmes psychologiques plus graves, si on veut, qu'une dépression. Fait que lui, il ne se sentait pas à sa place là-bas non plus. Donc,
est-ce qu'il y a eu un manque aussi à ce niveau-là qui n'était pas au bon endroit? T'sais, je ne sais pas comment on pourrait aider, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de mieux à faire, là.
Adriane, je vais te donner un exemple. Martine va te donner un exemple. Tu vas voir que c'est vraiment très parlant. Ton frère est rentré à l'hôpital. On l'a relâché. On a dit, retourne chez toi. Et malheureusement, comme si, là, va prendre tes bonbons, puis tout va se régler. Alors que, voilà. Martine, tu as un exemple d'une dame qui s'est blessée à la hanche et on a refusé de la retourner chez elle seulement si elle avait de la surveillance. Et je te laisse terminer. C'est tellement terrible.
Oui, c'est ça. C'est une de mes employées, en fait. Puis elle doit avoir une prothèse totale de la hanche. Puis ils lui ont dit à l'hôpital, lorsque vous retournez à la maison, est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous 24 heures par jour pour le prochain mois? Sinon, on vous installe au CHSLD pour être sûr qu'il ne vous arrive rien. Fait que, tu sais, moi, j'ai de la misère à comprendre que, quelqu'un qui a une dépression majeure, ben, c'est sûr qu'ils sont à risque de suicide. On ne peut pas le retourner à la maison. Il faut qu'il reste à l'hôpital. Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut que les gens suivent 24 heures par jour.
Absolument.
Une de mes employées, son père était suicidaire. Il rentrait et sortait de l'hôpital non-stop. À l'hôpital, il disait, ben, votre père a dit qu'il était correct, il veut s'en aller. Mon amie, elle se battait. Elle disait, non, il n'est pas correct, gardez-les. Mais la famille, quand même, eux autres, ils étaient au courant des problèmes de santé mentale de leur père. Donc, ils ne laissaient jamais tout seul. Ben, il y a une fois, ils l'ont laissé 5 minutes. Ça a été fini.
Parfait.
Adriane, quand on voit qu'on retourne quelqu'un chez eux, à condition qu'il y ait une surveillance 24 heures sur 24 pour une blessure à la hanche, et ton frère, il est profondément blessé, mais à l'intérieur, et on le laisse partir. C'est frustrant.
Exact. On ne le voit pas physiquement. C'est pas comme un bras cassé. C'est pas comme... C'est pour nous. Bien honnêtement, Jean-Michel, il semblait bien aller quand même. T'sais, on savait qu'il n'était pas au top de sa forme. Là. On l'avait déjà vu mieux que ça, mais c'était pas... Jamais on aurait pensé que c'était à ce point-là, sinon on ne l'aurait pas laissé seul. L'hôpital nous a pas dit de ne pas laisser seul. T'sais, on a été mal guidés, si on veut. C'est sûr que ça aurait pris plus, parce que malheureusement, là, on ne peut plus rien faire. Si ça peut aider d'autres personnes, c'est pour ça que ça me fait plaisir d'accepter l'entrevue à la radio. Mais honnêtement, ça prend des meilleurs suivis, ça en prend plus. Je pense que le gouvernement ne fait pas assez présentement.
Adriane Nefortin, on va poser ta question demain aux candidats pour les prochaines élections. On les aura ici, justement, à l'émission. Adriane, on va te souhaiter de passer à travers cette dure épreuve-là et surtout de mettre beaucoup, beaucoup d'amour auprès des enfants de Jean-Michel. Je pense qu'ils vont en avoir besoin.
Vous pouvez compter sur nous. C'est certain qu'on va faire ça. Je vous remercie beaucoup pour votre temps.
Merci et bonne chance.
Merci, au revoir.
Martine, on s'en va à la pause et après la pause, on va parler à la directrice du Centre de prévention du suicide de Québec, Mme Linda Poirier, qui va nous dire qu'il y a encore de l'espoir. On espère qu'il y en a de l'espoir.
Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis.
96.9. Suggestion simple pour être généreux sans tomber dans les cadeaux clichés. La boutique L'Inventaire Trouvailles et Inventions est la solution cadeau, sans compter qu'il y a des dizaines de gadgets pour agrémenter votre vie à vous aussi. Allez voir Manuel Labbé sur la rue Saint-Joseph. Il va vous trouver ce que vous cherchez ou ce que la personne que vous voulez gâter cherche, quel que soit le budget. Il y a de tout pour tout et tout le monde, même ceux qui ont tout. Allez chercher l'article désiré au 786 Saint-Joseph-Est à Saint-Roch. Magasinez en ligne au boutiquelinventaire.com.
Pensez à Ninette. Ce sont les experts en ménage résidentiel dans la région de Lévis. En plus d'être le service voyage de surveillance d'animaux et de domicile ou les deux, à Ninette.ca. Parce qu'un soin pour votre foyer, c'est aussi un soin pour vous. Faites-vous faire une soumission, c'est gratuit. Quand vous aurez conclu que c'est fait pour vous, votre facture sera faite à l'heure, vous bénéficierez de leurs services garantis et de leurs assurances qui vous protègent de tout dommage. Et c'est écolo aussi. Ils soignent votre résidence et vos animaux avec des produits éco-sûrs. That's it. Aninette.ca. 581-984-3680.
Vous faites des rénaux, une construction neuve. Métallurgiste Saint-Hilaire, une entreprise spécialisée dans les métaux ouvrés depuis 1946. Escaliers, garde-corps, clôture, projet sur mesure, galvanisé, peinture cuite. Métallurgiste Saint-Hilaire. MSTH.ca. Venez nous voir au 615 rue Arago-Ouest à Québec. Il nous fera plaisir de vous répondre avec la même passion qui nous habite depuis plus de 60 ans. N'oubliez pas, MSTH.ca.
Métallurgiste Saint-Hilaire vous
Vous êtes en pleine rénovation? Des travaux à terminer? Métallurgiste Saint-Hilaire, depuis 1946, c'est la compagnie pour effectuer vos projets sur mesure.
Balcon, escalier, clôture, garde-corps, petite structure, projet sur mesure.
Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire, 418-683-3226 ou rendez-vous au msth.ca. Pour terminer vos travaux en beauté, contactez les pros du métal, Métallurgiste Saint-Hilaire, msth.ca, de fiers supporters de votre alternative radio.
96.9. Ça fait 10 ans que Le Corsaire t'offre la meilleure bière en ville et on veut te remercier de nous suivre. Le Corsaire est la première et seule microbrasserie certifiée maître brasseur britannique au Québec. Des styles, chez nous, on a de tout. Nous sommes détenteurs de 14 médailles d'excellence mondiale. Et tu sais quoi? On n'a pas fini de t'impressionner. Pour un 5 à 7, ton party de bureau, on est là! Viens déguster nos bières lors d'une visite du salon de dégustation de notre micro de Lauzon. Découvre Le Corsaire Pub sur la rue Saint-Laurent et notre microbrasserie sur le boulevard Guillaume-Couture. Au Corsaire, lève ton verre. You're now listening.
96.9. La station du Mont-Play. Funky, l'alternative radio.
L'envers de la médaille avec Stéphane Tremblay aux commandes de CJMD. Martine Brault qui est notre invitée pour parler de suicide. Martine, le mot de la fin de cette émission, c'est important de dire qu'il y a quand même de l'espoir.
Oui, c'est sûr. Puis, mais je pense que le plus important, c'est que pour toutes nous, il faut qu'on soutille déjà à reconnaître là, les signes de dépression. Qu'est-ce que quelqu'un va dire? Par exemple, moi, mon fils qui disait à ses amis, ben entre autres, je suis triste, j'ai plus envie de rien faire, je me sens pas aimé, je ferai jamais rien de bon, je suis confus, je me comprends plus, j'ai un poids qui m'écrase, je suis plus capable de dormir. Donc, quand des personnes que vous aimez ont ces propos-là, je pense que ça vaut la peine de prendre un temps d'arrêt puis de creuser un petit peu plus profondément. Là. Est-ce que c'est juste aujourd'hui là, que tu es triste ou ça fait 2 puis 3 semaines? Parce que normalement, la dépression, ben, il faut que ça fasse un bon 2 semaines qu'on soit triste puis qu'on se sente pas bien. Puis après ça, dans le fond, la dépression, si elle progresse parce qu'on ne l'a pas diagnostiqué, on ne l'a pas traité adéquatement, bien, la personne va commencer à nous donner des paroles suicidaires. J'en peux plus, j'ai plus la force de me battre, je veux en finir, je ne trouverai jamais de solution, je veux disparaître, je veux mourir, puis je vais me suicider. Là. Mais il y a des personnes qui vont utiliser des messages un petit peu plus subtils, comme Patrick, il disait à un de ses amis, il dit, je vais te montrer comment faire parce que je ne serai pas toujours là pour t'aider.
Pourtant, ça semble